Bonjour mes amis, nous sommes aujourd'hui le vendredi 2 octobre et c'est l'émission Les Voix de Service qui commence aujourd'hui en ce vendredi, très beau vendredi, très frais aussi, très venteux sur Montréal. Je ne sais pas comment c'est par chez vous, mais c'est le temps peut-être de bien s'emmitoufler puis d'aller prendre une bonne marche, mais après Les Voix de Service. Alors aujourd'hui encore, j'aurai des collaborateurs qui vont venir m'épauler, qui vont venir vous présenter toutes sortes de sujets, notamment dans le domaine culturel. Également aujourd'hui, et surtout en cette première demi-heure, j'ai épluché pour vous deux journaux, le Journal de Montréal, de quotidien, je devrais dire, le Journal de Montréal et Le Devoir. Au milieu de ça, il y a Christiane Campagna qui va nous arriver avec sa nouvelle virale. Et puis dans quelques secondes, je vais me tourner vers Rémi Ramoseau pour regarder avec lui ce que ce 2 octobre nous rappelle comme souvenir, et puis si c'est la journée de quoi que ce soit. Alors Rémi, 2 octobre, bonjour d'abord, ça va bien?
Bonjour Clotilde, ça va et toi?
Oui, superbe.
Donc en ce 2 octobre, nous fêtons les Saints Légers.
Saints Légers?
Ouais, les Saints Légers. Donc bonne fête à tous les... tous les légers.
À tous les légers. Ça fait drôle. Ouais. C'est parce que j'ai déjà entendu légère. Je sais qu'entre autres, en Acadie, c'est un prénom, mais léger.
J'ai jamais entendu ni l'un ni l'autre.
Ah bon. Avance-toi un petit peu parce que je t'entends mal.
Est-ce que c'est mieux comme ça?
Ah oui, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux.
Donc, mais sinon, le 2 octobre, c'est la journée internationale de la non-violence.
Ah oui, et Dieu sait si au lendemain encore de la tuerie aux États-Unis, on est encore très loin de cela.
Ouais.
OK.
En 2009, le Québécois Guy Laliberté a fait son entrée dans la station spatiale internationale et rejoint les 6 occupants de celle-ci, dont un autre Canadien, Bob Sears.
Oui, oui, oui. L'affaire aussi du nez rouge, le clown, ça lui a coûté un petit peu de sous. Mais...
Je ne sais même pas de quoi tu parles.
Ah ben, c'est parce qu'il avait, il s'était mis un tinet de clown. Il s'était mis à tiner de clown quand il était en haut, puis qu'il s'amusait avec...
Ça me dit quelque chose.
Oui, ça te dit quelque chose. Mais enfin bon, mais... tu vois, là, le Cirque du Soleil, tu vois, le nez de clown.
Oh, d'accord.
OK, d'accord, ça y est.
C'est bon, ça rentre.
Rémi vient d'allumer.
Je me réveille encore. Donc, en 2014, la ville de Montréal annonçait le congédiement de 6 pompiers à la suite d'actes de vandalisme qui avaient été commis à l'hôtel de ville.
Oui, je me souviens aussi, évidemment. C'est pas vieux, ça, 2014, oui.
En 2009, Rio de Janeiro était désignée comme ville organisatrice des Jeux Olympiques de 2016,
oui.
De l'été prochain.
Oui, et évidemment, on annonce qu'ils ne seront pas prêts, mais ça, c'est de toute façon l'annonce qu'on fait systématiquement en ce qui concerne les Jeux Olympiques, et quelle que soit la ville qui les reçoit. Et puis sinon, est-ce que c'est la fête de quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que c'est l'anniversaire de quelqu'un?
Ils sont nés un 2 octobre, donc Mohandas Gandhi, père de l'indépendance de l'Inde.
Ouais.
Je pense que je n'ai pas trop besoin de le présenter.
Non.
Paul Hindenburg, militaire et homme d'État allemand, le maréchal Foch.
Alors Hindenburg, c'était celui qui avait donné son nom au en tout cas, pas sûr, regarde, je vais laisser faire. Le maréchal Foch, oui.
Le maréchal Foch, le comédien Julius Henry Marx, dit Groucho Marx.
Oui, ben oui.
Le premier ministre indien, Lal Bahadur Shastri.
Oui, on le connaît moins, lui.
Oui, je découvre son nom. Puis l'auteur, compositeur et chanteur américain, Don McLean.
OK, que je connais... Carrément
ça
pas
m'est
non
familier,
plus.
Mais...
Ouais. Merci beaucoup Rémi. On
Merci
va y aller,
toi.
Si tu le veux bien, tout de suite avec un petit jingle pour un gros titre. Et c'est avec le Journal de Montréal que je commence ce matin. On revient à la une du journal sur les 152 radars photo au Québec. Mais le gros titre aujourd'hui, c'est « Qui l'eût cru ?» et le journal qui s'intéresse, j'allais dire enfin, parce qu'ils n'en ont pas parlé énormément pour l'instant, à la campagne électorale. « Qui l'eût cru donc ?» Le NPD s'effondre, le libéral se faufile et le bloc remonte, c'est le titre. Difficile d'échapper à ce carnage, encore un carnage aux États-Unis. Évidemment, ça fait la page 3 du journal, ça fait la une de quasiment tous les journaux ce matin. Un tireur qui se serait épanché sur Internet, en plus avant le drame, a fait au moins 10 morts en Oregon. C'est la seule fois que je passerai aux nouvelles. Je suis si insignifiant, a écrit une personne anonyme sur le forum 4chan mercredi, rapporte CNN. Et selon plusieurs médias, les enquêteurs américains soupçonne l'auteur de cette confession d'être Chris Harper Mercer, le tireur qui a blessé 7 personnes en plus d'en avoir tué 10 à l'Umpqua Community College à Roseburg en Oregon. Au moment d'écrire ces lignes, nous dit Dominique Scali, on en savait encore très peu sur ce jeune homme. Je vais évidemment revenir sur cette nouvelle et notamment sur la réaction de M. Obama un peu plus tard, un peu plus loin à l'émission, durant le volet international. Alors, ça fait la une ce matin et ça nous dit que bien, c'est une lutte à deux qui se dessine. Libéraux et conservateurs pourraient profiter de la dégringolade de la troupe de Thomas Mulcair. Et José Legault est la chroniqueuse politique hein, du Journal de Montréal. Elle prend la page de Richard Martineau et la place de Martineau en page 6 le vendredi. Ce matin, elle signe un papier qui s'appelle « Les fourberies de Stephen ». Et elle dit « L'hypocrisie, c'est une indignation à géométrie variable. Le port de niqab aux cérémonies de citoyenneté est à proscrire. » Mais pas pour le vote, écrit-elle. Il bichonne aussi l'Arabie saoudite, un des régimes les plus répressifs et misogynes de la planète. Alors qu'à cela ne tienne, hors de Montréal, Stephen Harper est en mode grande séduction. Le niqab est la boîte de chocolat. Les impôts bas sont les fleurs. Son appel aux valeurs québécoises, canadiennes et conservatrices, érigé en sainte trinité indivisible, est la bague de fiançailles. Comme le renard de la fable, il flatte sa clientèle cible pour mieux lui faire lâcher le changement qu'il désirait pourtant. Question de lui faire oublier la nature strictement électoraliste de son amour pour le Québec. Au face-à-face des chefs de ce soir à TVA, Tom Mulcair sera-t-il capable de rafraîchir les mémoires vacillantes? Elle semble en douter, Madame Legault. Assez rapidement, vous vous souvenez, il y a quelques années de ce type, l'Autrichien Felix Baumgartner, c'était il y a 3 ans, qui avait tenté et réussi la cascade la plus risquée dans le monde. Qu'est-ce qu'il avait fait? En fait, je vais retrouver ça un petit peu plus tard. Mais là, il y en a un autre qui se lance dans une autre aventure. Ça s'appelle « Tomber du ciel sans parachute ». C'est un pari risqué. C'est une aventure quasiment suicidaire. Il s'appelle Luke Aikins. On l'appelle Lucky Luke. En fait, Luke Aikins, Lucky Luke. Il dit, lui, qu'il ne tenterait pas quelque chose dont il n'est pas sûr à 100%. De quoi il s'agit? Eh bien, il s'agit de sauter d'un avion sans parachute et de rebondir lorsqu'il sera au sol, dans une espèce de filet, un filet protecteur qui va donc amorcer sa chute, un filet de 30 mètres par 30 mètres, 30 mètres par 30 mètres. Je serais incapable de vous dire en pied combien ça fait, mais en tout cas, c'est vraiment tout petit par rapport au fait qu'un bonhomme tombe du ciel comme ça. Imaginez sa vitesse après la sortie de l'avion. Rapidement, il atteindra une vitesse maximale qu'on peut... Ah, donc ça fait 98 pieds par 98 pieds, donc 100 par 100 quoi, à peu près, 100 pieds par 100 pieds. C'est vraiment tout petit hein, quand on voit d'où il tombe, le monsieur. Sa vitesse sera entre 240 et 290 km/h, c'est incroyable. Ensuite, il va falloir aussi, après 2 minutes, avant d'atteindre la cible, il va devoir se tourner dos au filet pour que le filet absorbe sa chute estimée à 200 km/h. Ce filet... Il est fabriqué avec du nylon hautement résistant avec des trous de 5 à 10 cm pour laisser passer l'air. Il a déjà été testé avec des objets lourds lancés à partir d'un hélicoptère. La cible sera équipée de panneaux lumineux qui changeront de couleur selon la position d'Atkins, lui indiquant s'il est dans le bon axe ou pas. Donc je vous explique, le filet est installé à 76 mètres de hauteur, il est retenu sur 4 pieds en métal et ce sont ces pieds-là qui changeront de couleur pour lui indiquer s'il est dans la bonne position, dans la bonne trajectoire, dans la bonne ligne. Ce type complètement fou, je vous le rappelle, s'appelle Locke Aikins. On l'appelle Lucky Luke. On va lui souhaiter d'avoir de la chance. Est-ce qu'ils nous disent? Ça va se faire début 2016. Voilà. Et c'est un Américain. Bah oui. La caricature du Journal de Montréal, ce matin, nous présente Mme Lise Thibault dans sa cellule. On aperçoit un lit, un lit, en tout cas une couchette. On aperçoit des toilettes comme on peut les imaginer dans une cellule. Et il y a au mur un portrait de la reine Élisabeth. Et la légende à la caricature dit « The queen can do no wrong ». La reine ne peut se tromper, ce à quoi Madame Lise Thibault, tout en la regardant, lui répond par un bras d'honneur. Bon, alors j'avais envie de vous lire « Radar, photo et hypocrisie » parce que tout le monde en parle beaucoup de ces radars qu'on va voir pulluler. Fleurir un petit peu partout sur les routes du Québec. Et c'est Jonathan Trudeau qui s'exprime ce matin et qui dit « Le gouvernement du Québec veut votre bien, il l'aura. Et pour y arriver, il va fouiller encore un peu plus dans vos poches. On assiste à un double discours navrant. D'un côté, on prétend vouloir nous en enlever moins et de l'autre, on met en place des moyens pour nous presser le citron un peu plus. » Le ministère des Transports a confirmé cette semaine les 129 endroits où vous pourrez faire la rencontre de l'un des 36 nouveaux radars photo. La majorité de ces machines à tickets seront installées dans des municipalités, pas de problème. Si la peur de croiser un radar peut empêcher les têtes en l'air de rouler à 70 km/h dans une zone de 30, tant mieux, dit M. Trudeau, Jonathan Trudeau, qui, je pense, n'a absolument rien à voir avec qui vous savez. Sur nos autoroutes, une quinzaine d'endroits supplémentaires pourront faire l'objet d'une surveillance par cinémomètre, davantage de trappes à tickets. Les apôtres de la sécurité routière diront que chaque initiative visant à améliorer le bilan routier est louable. Je veux bien. En clair, il y avait beaucoup trop de morts sur nos routes. Il y en a moins. Il y en aura encore moins. Les voitures sont plus sécuritaires. Les conducteurs sont davantage sensibilisés à la problématique de l'alcool au volant. Et les grands excès de vitesse sont désormais punis sévèrement. Tant mieux. La problématique avec la prolifération des radars photos sur nos autoroutes, c'est que le gouvernement profite à fond d'une hypocrisie collective qu'il a contribué à instaurer depuis des dizaines d'années. Vous roulez à combien sur la 40 entre Montréal et Québec? 100 km/h? Non, je ne vous crois pas, dit ce monsieur Trudeau. Tout le monde sait que la Sûreté du Québec est tolérante si vous roulez autour de 120 km/h. Mets ça sur le cruise à 119, puis tu vas être correct. À cette vitesse, vous pouvez saluer l'agent qui fait du radar dans sa voiture entre Repentigny et Joliette. Il vous renverra sûrement l'appareil. Alors voilà le problème. Une habitude s'est créée. Une zone grise subsiste. Quand je vais aux États-Unis et que la limite est fixée à 60 000 à l'heure, je ne niaise pas avec ça, je roule même à 58 juste au cas. Je n'ai pas envie de faire la connaissance d'un state trooper intransigeant qui va dire « I didn't see the limit », à qui je vais dire qu'il n'a pas vu la limite. « So what ?» va lui répondre forcément le flic. « C'est quoi la vraie limite de vitesse sur nos autoroutes ? Impossible à dire. Ce que le gouvernement sait pertinemment, c'est que ce flou s'avère payant quand un radar photo vous colle un ticket à 110 km/h, disons. » Depuis leur instauration en 2009, ce sont des dizaines de millions qui sont allés dans les coffres du gouvernement. On vous dira que cet argent est dédié au fonds de la sécurité routière. Foutaise. Le ministre Poetti sera populaire auprès de ses collègues des finances et du Conseil du Trésor. Grâce à lui et à vous, le budget du Québec sera équilibré. Mais en passant, monsieur Poetti, demande ce monsieur, vous roulez à combien sur l'autoroute? 100 km/h? Non, je ne vous crois pas. Alors régulièrement, on voit le net s'exciter le poil des jambes et donc tous les jours, Christiane Campagna vient nous dire sur quoi le net écrit, mais en tout cas sur quoi la twittosphère entre autres, comment on pourrait dire ça, s'exprime,
voilà, tout bêtement. Ouais. Je suis en mode florilège là, ce matin, j'ai comme des tweets sur différents sujets qui ont marqué l'actualité hier ou dans les derniers jours. Évidemment, la tuerie aux États-Unis, Annie Desrochers retweet... En ajoutant le commentaire, un président exaspéré, cette citation d'Obama qui dit « We've become numb to gun violence ». On est comme « numb », c'est un peu comme engourdi, mais par rapport à quelque chose.
On est dans la routine.
Oui, on devient blasé.
On devient blasé, voilà. on est dans la routine et il s'est inclus là-dedans.
Oui, voilà.
On s'habitue.
C'est ça.
C'est épouvantable, oui.
Sur une note moins grave, il y a Accédé de Desjardins qui a connu des grands problèmes hier après-midi, qui a été paralysé une partie de la journée. Et il y a Stéphane Leroy qui dit « J'aimerais souligner à accéder que j'étais à faire un virement de 925 000 $ quand tout a disparu. J'imagine qu'on va être remboursé. »
Oui.
Il y a Nicolas Boisvert qui commente l'affaire au but, qui dit « C'est un peu weird de penser que pour ne pas nuire à son image, l'équipe de Poutine lui conseille probablement de ne pas être vue avec au but. »
Oui.
Et il a décidé, entre hommes, ce compte dont je vous avais parlé il y a quelques semaines, qui publie des photos où il y a plein d'hommes sur les photos et presque pas de femmes. Alors, ils écrivent « Harper pourfend le niqab au nom de l'égalité homme-femme. Ben coudon. » Et on a une photo de Harper avec tous ses candidats. Il n'y a pas beaucoup de femmes. Non. Il y en a quelques-unes.
Et vous avez
mais
vu,
il n'y en a pas beaucoup.
Ouais, et pire encore, vous avez vu à l'ONU, la semaine dernière, le grand congrès qu'il y a eu, c'était pathétique. Que des cravatés, quasiment. Mais c'est terrible. Et c'est, parce que c'est quand même l'ONU, donc c'est international.
Oui, c'est cet organisme qui nomme à la tête de comité des droits de l'homme l'Arabie saoudite, en tout cas.
Oui.
La suite, Edward Snowden avait oublié d'éteindre les notifications quand il a ouvert son compte Twitter. On sait qu'il a eu des millions d'abonnés. Ouais. Alors, il a reçu pour 47 GB de notifications pour chaque abonnement, chaque personne qui s'est abonnée à lui, tout ça. Il a reçu... Chaque commentaire, il a reçu un courriel. Comme quoi, parfois, les cordonniers sont mal chaussés. Il n'avait pas prévu
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là?
Il faut désactiver les notifications par courriel face à nos médias sociaux parce que j'espère qu'il a un bon forfait mensuel.
Aïe, 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 aïe.
Parce qu'il est rentré beaucoup, beaucoup de messages. Louis T. qui dit « L'avantage de la crise en Syrie, c'est qu'elle aura réglé la crise en Grèce. » Ben, en tout cas, je suppose, puisque plus personne n'en parle.
Oui, effectivement.
Et il y a quelqu'un qui commente une nouvelle de Radio-Canada en disant Radio-Canada Info, dont le tweet dit « Un nageur chauve conteste l'obligation de porter un casque à la piscine. » Et quelqu'un qui dit « Ah, impayable, ce navet. » Oh non, c'est Radio-Canada Info.
Oh! Merci beaucoup, Christiane. Alors, à la une du Devoir ce matin, merci Christiane, à plus tard. Zeitgeist, Joblot observe l'intelligence en campagne. Je vais me faire un plaisir de vous lire ça un petit peu plus tard à l'émission. Les aléas d'un atelier d'initiation à la mycologie. Ah, ça m'intéresse parce que personnellement, quand je vois des champignons, je n'ose jamais en cueillir parce que j'ai trop peur de m'empoisonner, littéralement. Oléoduc 9B, feu vert à Enbridge. Au départ, 270 000 seront transportés chaque jour dans l'oléoduc 9B dans 2 ans. Le volume quotidien pourra être porté à 300 000 barils. Les municipalités sont prises de court. Alexandre Shields et Jeanne Corriveau qui écrivent « Au moment où l'Office national de l'énergie autorise Enbridge à faire couler chaque jour 270 000 barils de pétrole brut vers Montréal dans son pipeline 9B, plusieurs municipalités de la région n'ont toujours pas de plan d'urgence en cas de déversement. Qui plus est ?» Le comité qui doit permettre de coordonner les interventions sur le terrain vient à peine d'entamer les travaux. Et puis aussi, Festival international de Trois-Rivières. Personnellement, je suis d'accord de voir en... Je suis d'accord et je suis surtout touchée, émue de voir en photo Gilbert Langevin. Gilbert Langevin qui a signé une trentaine de recueils de poèmes et de chansons. Gilbert Langevin a une vie pleine de mots. Caroline Monpetit qui nous dit « Enfant, il voulait devenir un saint, il est devenu poète. Il y a 20 ans, le 18 octobre 1995, Gilbert Langevin s'éteignit après avoir écrit et chanté de sa voix remplie d'amertume, de complaintes et d'infortune. Je le citais. Il a signé une trentaine de recueils de poèmes et de chansons, certains ayant été portés par les plus grands noms de la chanson québécoise, de Pauline Julien à Margeau. Il a laissé derrière lui une vie pleine de mots. Érudit sans le sou, vivant à Montréal entre ciel et terre, comme une feuille au vent, il a dit la détresse et le consumérisme. Il a dit le pays qui flanche et l'amour qui dérange. Il a dit aussi l'amitié et la fraternité. Cette voix que j'ai, cette voix, je vous la donne, c'est tout ce que j'ai. Et oui, parce que cette chanson qui, à un moment donné, a été reprise d'ailleurs pour l'émission La Voix, on a un peu trop souvent oublié de dire qu'on en devait le texte à Gilbert Langevin. Lise Payette, ce matin, vendredi, bien sûr, dans le titre de cette opinion, appelons ça comme ça, parce qu'elle est, toujours dans les opinions, à moins qu'on puisse parler d'une chronique. En tout cas, toujours est-il qu'elle parle de ce salon bleu qui est funéraire. je vais faire l'impasse sur le début de ce papier et j'arrive ici. Dans ce salon bleu si triste à la fin, il y a un ministre très visible. Vous savez que maintenant, on n'applaudit plus, on crie plus, on fait rien, donc c'est pour ça qu'elle trouve ça d'une tristesse infinie. Mais elle dit, il y a un ministre très visible qui fait de gros efforts pour être l'humoriste de service, le bon docteur Barrette, qui ne recule devant aucune pitrerie pour faire rire tout le monde. Il torture les mots, les idées aussi, la vérité, souvent, et il est évident qu'il se trouve très drôle. Si ça n'était pas interdit, il s'applaudirait lui-même. On sait que ce n'est pas la modestie qui l'étouffe. Ce qui finira par l'étouffer, ce sont les bons services qu'il rend à ses collègues médecins, qui vont lui en devoir toute une, et la ténacité des infirmières qui vont lui montrer de quel bois elles se chauffent. Cette fois, je crois qu'elles ont vraiment le gros bout du bâton. Il est évident, dit Lise Payette, que les petits jeux politiques à Québec ont réussi à passer sous l'écran radar à cause de la durée insensée de la campagne électorale fédérale. Préoccupé par les manœuvres douteuses des conservateurs durant toutes ces semaines, par les entourloupettes de M. Mulcair, selon la province où il se trouvait, ou les affirmations solennelles de l'admiration de Justin Trudeau, les citoyens et citoyennes ont pris le temps de refaire connaissance avec Gilles Duceppe, dont ils ont fini par apprécier la franchise, la détermination et le courage, qui sont des qualités de plus en plus rares, même au Québec. « Nous sommes le 2 octobre », écrit Lise Payette. « Nous sommes en campagne électorale depuis si longtemps que j'ai l'impression que ça fait 6 mois au moins. Tout a été dit et dédit. Et il est évident que tout reste à faire. C'est le bout le plus difficile et le plus important. Ouvrez l'œil, car il n'est pas dit qu'on n'essaierait pas de nous en passer, qu'on n'essaiera pas de nous en passer des pas mûrs dans les jours qui restent. » On disait autrefois que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Je vous propose une nouvelle version. L'avenir appartient à ceux qui se tiennent debout. Ce matin, je le confesse, mon cœur est catalan, dit encore Madame Lise Payette. Ces millions de personnes dans les rues de Barcelone pour célébrer une victoire imparfaite, mais une victoire indéniable, ont été un réconfort pour nous tous dans notre désir de chanter et de danser dans nos rues comme ils l'ont fait chez eux. Je souhaite un jour retourner en Catalogne pour voir de près de quoi ça a l'air. Un peuple heureux et enfin libre. La dernière fois que j'y suis allée, dit Madame Payette, il y a longtemps, ils en parlaient beaucoup, mais c'était encore un rêve. Ils sont maintenant tout prêts d'avoir un pays. Alors, est-ce que c'est magique, la cueillette du champignon? Permettez un petit sujet un petit peu plus léger en ce vendredi, qu'en dites-vous? On nous propose dans Le Devoir aujourd'hui, dans le cahier Saveur, les aléas d'un atelier d'initiation à la mycologie. Et c'est Catherine Lalonde qui signe ça. Elle dit « Fallait bien la motivation de ma post-hippie de sœur pour me faire lever à 5h45 un dimanche matin afin de sauter mal réveillée dans un pick-up déglingué ». Elle y est montée avec un hectolitre de café en main pour se rendre où elle est allée à Granby pour suivre un atelier d'initiation à la mycologie. Alors, petit couteau en poche, panier au bras, des bottes de caoutchouc aux pieds, déjà effrayées par de possibles intoxications alimentaires, nous étions une heure plus tard presque enfin prêtes pour une initiation à la cueillette et surtout à l'identification des champignons. Et là, ils ont eu affaire à Louise Fortin, qui est mycologue amateur depuis 30 ans. Et voilà un quart de siècle qu'elle partage sa passion en donnant des conférences et des ateliers. Le petit groupe, parce qu'il y avait seulement 6 apprentis que nous formions ce jour-là, avec Stéphane, qui n'a pas arrêté de siffloter « la la la, Schtroumpf, la 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 », le verre d'oreille des films de Schtroumpf, était fort bien entouré entre elle, son conjoint Régent et son assistante Chantal. Alors, il y a eu d'abord quelques instructions préliminaires. Et puis, nous voilà partis pour presque 2 heures avec comme prime mission de cueillir tout ce qu'on trouve. Autrement dit, des polypores de tronc d'arbre ou espérées chanterelles, amanites délicieuses ou dangereuses, bolets colorés, russules parasitées, sans tri, sans sélection sur le terrain. Allez hop, on ramasse tout ce qui pousse. Se pencher, tourner autour d'un tronc, passer de champignon en champignon peut facilement faire perdre le sens de l'orientation. Et on comprend alors les consignes un peu mère-poule données à l'arrivée. Bon, lorsqu'on cueille, on fait monter l'odeur de l'humus, On soulève les feuilles mortes, on se salit les mains en se frottant les champignons, on pose son butin plus ou moins attentivement dans un petit sac en papier, autant d'actions qui en appellent agréablement au sens. Et quand fusèrent les appels de Louise et Chantal afin de nous montrer la talle d'Amanite Jackson, petit délice orangé pas si commun semble-t-il, l'emblème du cercle des mycologues de Montréal, eh bien la chasse se fait plus ciblée et la chance des débutants nous sourit. Alors, retour au point de rendez-vous. Là, en chemin, on vole quelques petits fruits aux pommiers voisins, etc. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, un long moment est consacré à l'importance de l'identification. Ben oui, parce qu'on peut mourir, hein, et salement, si on intègre de l'amanite vireuse, qui est l'un des 3000 champignons qui poussent au Québec, et l'un de la presque trentaine qui est toxique. La cueillette des champignons, on le comprend, ça ne se fait pas en batifolant, il faut rester vigilant. Alors, c'est là que savoir qu'il faut avoir du nez, et, mais aussi la vivacité de Louise Fortin dans la démonstration pour nous apprendre spécimens et anecdotes à l'appui, ce qu'on peut humer et manger ou pas. Alors, on parle de couleurs, de spores, d'odeurs, de farine rancie, de navets. Elle dit, on se croyait par moments apprenti œnologue, autrement dit, dans un atelier plutôt pour goûter des vins. On goûte sans avaler pour découvrir qu'on peut identifier un certain lactaire par son lait brûlant. Effectivement, bien pire qu'un piment oiseau et qui a laissé les téméraires, et j'en suis, la langue sortie en quête de fraîcheur pendant plusieurs minutes. On pèle des cuticules, on cherche la différence entre les chanterelles et les toxiques clitocybes lumineux. Et là, il y a vraiment un trip sensoriel particulier à cheval entre la curiosité et la prudence. La cueillette sera partagée entre tous de manière équitable. De retour à la maison, il faudra encore laver et préparer les champignons comestibles qui ne souffrent pas d'attente. Et goûter avec un tout petit filet d'huile, à la poignée d'amanite de Jackson, qui sont effectivement délicieuses, contrairement à leurs petites camarades, les amanites vireuses. Bonjour tout le monde, dans quelques secondes, je vais accueillir mes petits camarades Jennifer et Charles. Le temps qu'on se parle un petit peu, je vous propose qu'on écoute une chanson, puis on se retrouve tout de suite après. Merci.
À mon ami d'en haut, quand il était chapeau. À mon ami d'en haut, à ce qu'il fut maître. À mon ami d'en haut, on se reparlera bientôt. Tes loques sur mon dos, ailes dans ma peau. Car mon ami là-haut, c'est rien à vol d'oiseau. Nous n'en resterons être mort idiot. Au compte de printemps, à ceux d'automne, au fado. Quand la vie dure longtemps, longtemps la vie dure. donne chaud avant de quitter le manteau. Les raisons passent une à une de passer encore un Noël. Les saisons passent, j'imagine, nous n'en resterons pas là. Nous n'avons apparemment pas l'heure de décider. A-t-on idée, a-t-on idée de se dérober à l'heure de se parler bien?
Bonjour mes amis.
Bonjour.
J'ai
Bonjour.
Avec moi mes collaborateurs Jennifer Vignery et Charles Roy qui fidèlement sont là le vendredi matin.
Avec
pour
plaisir.
Avec plaisir en plus.
Oui.
Faut leur voir le sourire. Je pense que réellement quand ils disent avec plaisir là. Hein,
c'est
voilà.
Avec plaisir.
C'est avec plaisir, exactement. Ce matin, de quoi allez-vous nous parler l'un et l'autre un peu,
moi, je vais vous parler, il y a la Journée mondiale du ballet, c'est à la Place des Arts, on va en parler un petit peu. Il y a aussi une toute nouvelle exposition qui va être présentée au Musée des Plaines d'Abraham. Je vais exposer rapidement des choses qu'on va pouvoir faire gratuitement à Montréal au mois d'octobre.
Okay.
Et puis, il va y avoir un nouvel album signé Kurt Cobain. Alors, on sait tous que Kurt Cobain, bien évidemment, n'est plus là, mais c'est une compilation d'archives de chansons connues et peu connues, voire pas du tout. Donc on va en parler un petit peu, et puis plein de brèves et plein de choses à voir et à faire encore.
Mais moi, je vais ajouter de la variété à la belle brochette de Jennifer. Écoutez, on s'en va en théâtre. Je vais parler du spectacle Sauvageau, Sauvageau, qui se termine très bientôt, mais qui sera ensuite en tournée. Ensuite, je vais vous parler du Festival du Nouveau Cinéma, qui commence au début d'octobre, donc la semaine prochaine. Et aussi, je vais vous parler de Louis-Jean Cormier, qui entame sa tournée de son dernier album.
Ah oui, lui aussi. Alors, on y va avec Charles ce matin.
Oui, alors, la pièce Sauvageau, Sauvageau, écoutez, Paul Savoie est né à la même année que Yves Sauvageau. C'est un auteur à la plume libre et déraisonnable qui s'est suicidé à 24 ans, en pleine crise d'octobre. Dans Sauvageau, Sauvageau, présenté au théâtre d'aujourd'hui, dans une mise en scène de Christian Lapointe, il incarne une représentation fantasmée de l'auteur. Occasion rare de replonger dans son œuvre. Eh bien, tant qu'à y être, replongeons-y. J'ai un extrait de la bande-annonce du spectacle que je vous propose.
J'ai eu envie d'abord d'entrer dans Sauvageau par un mode documentaire. Donc, dans un premier temps, ce qu'on veut, c'est vous faire entendre des gens qui, de son époque, l'ont connu. Des entrevues inédites qui n'ont jamais été entendues avant, où ces hommes-là nous parlent de ce jeune acteur-là, ce jeune auteur-là qui était génial.
C'est drôle parce que tu dis on fait un objet théâtral sur quelqu'un qui est mort à 24 ans, puis au contraire, moi, j'ai l'impression que ça respire la vie là-dedans. C'est plus un souffle quand tu lis ça de « Man, je suis vivant ».
Les amis, écoutez, je suis une œuvre d'art libre. C'est moi la liberté. J'ai trouvé ma voie, un sens personnel à la vie. J'ai assouvi mes aspirations créatives, mais ça nourrit pas son homme. J'ai faim et j'ai soif.
On vient d'entendre dans l'ordre Christian ouais. Lapointe, le metteur en scène de ce spectacle-là, David Giguère, qui est le compositeur musical dont vous entendez la trame, et aussi Gabriel Sabot, qui incarne ce jeune homme à 24 ans. Paul Savoie, on ne l'a pas entendu, mais c'est lui qui incarne le même personnage, mais plus tard. Monsieur Sauvageau est mort avant d'avoir pu édifier l'œuvre grandiose qui germait dans ses propres, dans ses premiers textes. Mmh. Monsieur Sauvageau était à 24 ans un phénomène de curiosité, dit-on, un auteur d'une œuvre pleine de promesses pour laquelle les observateurs du théâtre s'enthousiasmaient. Il était de la trempe de Michel Tremblay, lisait-on ici et là, malgré une œuvre fragmentaire et inachevée qui n'est pas toujours facile à décrypter. Quoi qu'il en soit, sa pièce la plus connue, Wouf, Wouf, présente un personnage romantique au possible, déploie un regard forcément critique sur un Québec déjà perdu dans le consumérisme.
Ah oui, 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 le consumérisme, oui.
Et dans l'absence de rêve. D'abord invité par le Centre des auteurs dramatiques, le CEAD, pour orchestrer une lecture publique, le metteur en scène Christian Lapointe a lu toute l'œuvre de Sauvageau pour en faire un montage dramatique, qui est Sauvageau, Sauvageau, la pièce. Donc un montage étonnant dans lequel un Sauvageau sextagénaire, Paul Savoie, ouais. qui a l'âge exact qu'il aurait en 2015, dialogue avec le fougueux jeune homme de 24 ans. Celui-là, Savoie, se souvient l'avoir croisé, Sauvageau, dans les corridors de l'école de théâtre. Donc c'est un rapport intime que Paul Savoie... c'est un rapport intime, donc, dans cette pièce-là. Ce qui est particulier, il dit, M. Savoie, c'est que le dialogue que Christian a construit avec le Sauvageau de 69 ans a été tiré des textes qu'il a écrits jeune, comme si déjà dans l'écriture de jeunesse se trouvaient les fragments de la maturité à venir. Le vieux Yves Sauvageau apparaît ainsi parfois comme un dédoublement, mais aussi comme une figure paternelle ou même l'évocation d'un amant. Mmh. Si vous voulez le voir, il reste encore quelques dates, c'est jusqu'au 10 octobre au Centre du théâtre d'aujourd'hui, et il sera au Théâtre Périscope le 10 et 28 novembre à Québec.
Merci. Jennifer.
Et oui, à l'occasion de la Journée mondiale du ballet, eh bien, le Ballet national du Canada s'installe à la Place des Arts. Ça a commencé hier, ça dure 3 jours, donc c'est jusqu'à samedi. Le Ballet national du Canada donc, débarque dans la métropole avec son programme triple. Chaque soir, 3 œuvres plus courtes, de 20 à 30 minutes chacune, se succéderont sur la scène du Théâtre Maisonneuve. Donc le premier ballet qui a commencé hier, c'était The Second Detail, emprunte plus allègrement au classique les 2 autres œuvres, soit Spectre de la Rose et Chroma, qui transporteront les spectateurs dans un univers plus contemporain. Le danseur québécois Félix Paquet pourra épater la galerie en fin de programme au sein de la distribution de Chroma. Cette œuvre créée en 2006 par le Royal Ballet de Londres a été transmise au Ballet National du Canada en 2010. Pour lui, le coup de foudre a été immédiat. Il nous dit « Je suis tombé en extase devant ce ballet dès les premières minutes. La musique de Joby Talbot lui donne une énergie extraordinaire. C'est un spectacle très différent et polyvalent. » Pour Félix Paquet, il s'agira d'une toute première prestation en sol québécois. Natif de la vieille capitale, il s'est installé à Toronto il y a 6 années okay. pour poursuivre son rêve et devenir danseur de ballet. Et gageons que la famille de Félix Paquet tiendra à faire la route de Québec à Toronto l'été prochain, puisque le danseur Félix Paquet a obtenu le premier rôle dans la production du Petit Prince okay. qui sera présenté dans la ville Rennes. Alors c'est l'été prochain, je pense qu'on aura le temps d'en reparler. Donc je rappelle juste que le Ballet National du Canada, il lui reste encore 2 présentations à la Place des Arts aujourd'hui et demain.
Merci Jennifer. Thank you. Charles, on revient vers vous.
Oui, cette fois-ci, je vais vous parler du Festival du Nouveau Cinéma qui...
J'aime ça.
Ben oui.
Non, mais c'est théâtre, ballet, cinéma, ben yeah! Oui.
C'est la 44e édition de ce festival. Cette année, encore plusieurs grands titres sont attendus pour les festivaliers. Pensons d'abord au prix de la mise en scène du Festival de Cannes 2015 avec The Assassin du réalisateur taïwanais. Je vais essayer de ne pas écorcher son nom. Ou Siaon Sain.
Ça y est, c'est fait.
Ça va sonner d'une autre façon.
C'est pas grave.
Il y aurait aussi la trilogie Les Mille et Une Nuits du cinéaste portugais Miguel Gomes, qui a été sélectionné à la dernière quinzaine de réalisateurs à Cannes aussi. Vous pourrez voir aussi Yout de l'Italien Paolo Sorrentino. Sans oublier le controversé film événement Love de Gaspard Noé, présenté en 3D en ouverture du film Temps haut. Tous sont au programme de cette nouvelle édition, mais sans compter les subtilités d'un festival complet et nuancé, comptant, comme à l'habitude, plusieurs sections qui seront plaire à tous, sans oublier les plus petits. Mais ça regroupe 364 films, hein, rien de moins, de 68 pays différents, de longs, de courts-métrages, de cartes blanches même, qui ont été données notamment à Maxime Giroux, à Mathieu Hawkins, à Carole Laure. Je vous propose d'entendre un extrait du film d'ouverture qui s'appelle Le Tout Nouveau Testament, dont je vais vous parler dans un instant.
Dieu existe. Il habite à Bruxelles.
Loi 2129. Quand on plonge un corps dans la baignoire, le téléphone sonne. Loi 2218. La file d'un côté avance toujours. Vite.
C'est dégueulasse ce que tu fais aux gens, tu les connais même pas et tu t'amuses à leur faire du mal.
T'as été nommé numéro.
N'importe qui ferait mieux que toi.
C'est interdit d'aller dans le champ.
C'est exactement à ce moment-là que je me suis décidée à faire quelque chose.
Tu sais ce qu'elle a fait, ta fille? Elle a balancé les dates de décès!
Il est encore impossible de savoir s'il s'agit d'un canular ou si ces fameuses dates de décès se confirment.
Merde.
Alors, vous l'entendez, le ton humoristique, c'est vraiment une belle comédie dont je vais vous parler. Écoutez, la présentation dont je vous ai fait la lecture plus tôt, ça vient de pieuvre.ca. Ça a été écrit par Anne-Marie Piette. Ça a été publié le 1er octobre dernier. Et le film d'ouverture, donc, Le Nouveau Testament, j'ai vu la bande-annonce ce matin, ça a l'air très, très drôle.
Tu riais beaucoup, oui, c'est vrai.
Oui. C'est un conte original et loufoque découvert lors de la dernière quinzaine des réalisateurs.
Parce que je le connais, ce réalisateur-là. Qui a fait ça?
Attendez, son nom m'échappe. Je vais le retrouver plus loin dans l'article, Clotilde.
D'accord.
Ce film est présenté en première nord-américaine. C'est le 4e long-métrage du réalisateur Jokovan Dormael.
Oui, c'est ça.
Oui, ce film-là réunit la crème...
C'est un belge.
Exactement, ça réunit la crème de la crème du cinéma belge et français. Vous pourrez voir Benoît Poelvoorde dans
Benoît
le...
Poelvoorde,
Ouais.
C'est lui qui incarne le rôle principal. Là, c'est-à-dire Dieu. Vous pourrez voir aussi Catherine Deneuve. Enfin...
Catherine Deneuve aussi, elle est dedans?
Oui, elle joue dedans. Il y a aussi François Damien, Yolande Moreau et bien d'autres, bien sûr. Un vent de fraîcheur, dit-on, souffle sur la comédie. Non, Dieu n'est pas celui que vous croyez. Il est bête, cruel et maigrichon. Ne dit-on pas d'ailleurs qu'il a été créé l'homme à l'image de Dieu?
Oui, qu'on a créé l'homme à son image. Oui.
Le réalisateur signe son premier long-métrage en 91 avec Toto le héros qui reçoit le Cinéma d'or au Festival de Cannes. 4 ans plus tard, Le Huitième Jour, interprété par...
Le Huitième Jour. Je cherchais depuis tantôt. Je sais pas si vous l'aviez vu. Vous êtes un peu jeune. Toi, tu l'as vu.
Ouais.
Le Huitième Jour, c'est la première fois qu'on utilise un comédien trisomique.
Ah oui.
Qui jouait avec Daniel Auteuil,
exactement.
Si mes souvenirs sont bons.
Exactement.
Et c'est comme ça, oui, qu'on l'avait, parce que, bon, Toto les héros, moi, je l'avais vu aussi, je me souviens bien, mais c'est effectivement avec Le Huitième Jour.
Et c'est un très, très beau film, émouvant.
Oui, et il avait reçu un prix, hein, ce jeune comédien trisomique-là, il avait reçu un César, si mes souvenirs sont bons.
Le prix d'interprétation masculine à Cannes. Peut-être un César aussi, j'en sais rien.
Donc, en fait, c'était à Cannes, mais je me souviens bien qu'il avait reçu un prix. Et je me souviens aussi très, très bien de la réaction de Daniel Auteuil quand il avait joué avec lui et qu'il disait que sa vie ne serait plus jamais la même. Quoi. Ils avaient vraiment vécu quelque chose de très, très fort sur le plateau. Si vous avez l'occasion, peut-être, soit par la bibliothèque, parce que je sais qu'il y a des DVD, hein, donc si vous ne voulez pas payer, si vous avez l'occasion ou sinon de retrouver ça dans les grands classiques, peut-être ici à la Boîte Noire, le 8e jour, allez vous chercher ce film-là.
Ouais, il faut le voir, il vaut vraiment le coup.
C'est vraiment extraordinaire, un film de Dormael, ça s'écrit D-O-R-M-A-E-L, si mes souvenirs sont bons, c'est ça. Et donc avec Daniel Auteuil et ce jeune garçon trisomique, pardonnez-moi si je ne me souviens plus de son nom, on ne l'a jamais revu après.
C'est vrai qu'après on ne l'a pas revu, non.
Ben, de toute façon, c'est sûr que c'était peut-être difficile. C'est parce qu'on ne pouvait pas lui donner toujours non plus le même rôle. Ouais. Mm-hmm. En tout cas, c'est vraiment le 8e jour. Pardon de vous avoir interrompu, ça me semblait important de...
Ben oui, ben, c'est, en fait, ça témoigne du grand talent de Dormael. Et en fait, il frappe fort vraiment avec ce film-là, dit-on. Allociné dit que ce film déjanté fait rire aux éclats. Alors, courez-y si vous voulez y aller. C'est en ouverture, je le répète, du Festival du Nouveau Cinéma qui se tient du 7 au 18 octobre à Montréal. Donc, courez-y.
Et on espère qu'à un moment donné, il sera en salle aussi pour les gens qui ne pourront pas aller. Mais oui, mais on les connaît. Parfois, c'est long. Ça peut prendre des mois et des mois. Jennifer, qu'est-ce que vous avez pour nous maintenant?
Eh bien, écoutez, le mois d'octobre a commencé, ça y est. Et du coup, je et vous propose, et oui, on le sent, on a ressorti un petit peu les vestes.
Et du coup,
je vous propose, le Journal de Montréal plutôt propose 21 activités gratuites à faire à Montréal. Alors, je ne vais pas toutes les énumérer, mais je vais parler de celles qui vont être là très prochainement. Par exemple, rendez-vous une dernière fois au Parc Olympique pour déguster les meilleurs plats des food trucks, montréalais.
Ah oui, non, c'est ça, pas les fast-food.
Non, pas les fast-food, les food trucks montréalais, où vous pourrez vous régaler. Ça va être les premiers vendredis du mois, donc ça commence aujourd'hui. Vous pourrez aussi également découvrir des œuvres magnifiques de deux Montréalaises. Alors ça va être du 3 au 31 octobre prochain à la récréation. Il s'agit du vernissage de Geneviève Blin et Audrey Lapeurière. Également, il y a la fête de clôture des jardins Gamelin, ça ce sera le 4 octobre. L'été est vraiment fini, donc pour célébrer la.
Ça c'est juste à côté, là, à la place Gamelin, là.
Station Berry-UQAM.
C'est Berry-UQAM,
c'est juste à côté.
Exactement.
C'est Sainte-Catherine et pour les gens montréalais, pardon pour vous en région.
Ça s'adresse exactement.
Mais c'est vraiment.
Mais si vous êtes là en visite, n'hésitez pas à y aller parce qu'en plus il y aura un dernier barbecue organisé ce dimanche 4 octobre au jardin Gamelin. Donc
c'est génial.
Il va faire frais mais il fera beau.
Oui, c'est ça. Je suis déjà passée un soir et ça dansait. Il y avait une soirée salsa cubaine. Et Cubains de la ville étaient là. C'était tellement sympa. Il faisait chaud. En plus, il faisait humide.
Ça devait être une belle ambiance.
Ah, tout le monde était trempé. Ça ruisselait, mais c'était heureux. Vous savez, il n'y avait pas de gens sous. Il n'y avait pas de gens... Mais il y avait de la bonne musique. Puis ça dansait. Puis c'était beau à voir. Moi, je suis restée pendant une heure. Non, je n'ai pas dansé, mes chéris. Non, si c'est ça la prochaine question, on va passer à une autre. On continue, Jennifer.
Et il y a également... Donc, les éditions de Ta Mère organisent une petite soirée de lancement qui s'annonce très divertissante, où vous pourrez rencontrer les auteurs des livres et avoir une dédicace personnalisée et puis boire quelques verres. C'est le lancement des livres « Les filles jouent de l'air guitare » et « Les nouvelles de Ta ». Donc ça, ce sera le 5 octobre.
C'est pour enfants, ça, j'imagine.
Oui, exactement.
Ta mère, ça s'écrit comment?
Alors, Ta, plus loin, mère.
Ah ok, là, comme ta maman.
Comme ta maman.
Ok, d'accord. D'accord.
Voilà.
Les éditions de Ta Mère, d'accord.
Également, les meilleurs mixologues de la métropole seront en compétition lors de l'événement Made with Love qui aura lieu en décembre.
Les mixologues.
Oui, alors voilà, les platines, les DJ et compagnie.
Ah oui. Ok, moi je pensais de la bouffe tout de suite.
Non, mais vous avez raison, c'est des mixologues, mais en fait c'est pas pour les platines, je plaisantais, c'était pour des cocktails.
Ah
voilà, donc vous étiez pas loin. Et mardi, le public
Attendez, vous allez trop vite. Jennifer. Parce que ça m'intéresse.
Ah, c'est pour ça.
Moi, ça mais oui, non, mais c'est vrai. Puis du coup, j'ai pas réussi à noter. Il faut penser aux gens qui sont peut-être intéressés. Alors, c'est où?
C'est le 6 octobre.
Ouais.
Et l'endroit, donc le public pourra goûter au cocktail des participants qui souhaitent se qualifier pour la compétition. Et ce sera, alors, les portes de la taverne Midway ouvriront à 18h pour le public.
On ne sait pas où c'est, la taverne Midway.
Alors, je ne sais pas où ça se trouve.
Est-ce qu'on peut faire une petite recherche, Rémi, s'il te plaît, pour me dire où est la taverne Midway? J'imagine que c'est encore à Montréal, cette
affaire-là. Alors, c'est sûr que c'est à Montréal, parce que c'est que des activités
ici. C'est le journal de Montréal, oui, c'est ça.
Mais l'adresse exacte de la taverne Midway, je ne l'ai pas.
Alors, Rémi, là...
C'est au 12-19... Saint-Laurent.
12-19 Saint-Laurent.
Voilà, donc c'est pas mal dans le
juste
vieux.
Juste à côté du métro Saint-Laurent, puis c'est en face du Club Soda, en fait.
En face du Club Soda, d'accord.
Ouais. D'accord,
très bien.
Parfait.
Donc, je rappelle, donc ça ouvre à 18h pour
le 6 octobre.
Pour le public. Oui, ça, le 6 octobre, c'est mardi prochain.
Ah oui, non, mais moi, je peux pas aller boire comme ça en semaine, et moi, je me lève le lendemain matin. Qu'est-ce que vous pensez pour faire cette émission-là?
À partir de 18h, ils disent les premiers arrivés, premiers servis, donc...
Ah, je vais arriver à 4h. Ah, non, 4h, je bosse. Oh.
Et pour j'en ai encore quelques-unes. Il y aura de nombreux concerts et activités qui vont être organisés dans le cadre de l'OFF Jazz de Montréal. Mm-hmm. Donc là, pour les dates, c'est du 1er au 10 octobre.
En fait, c'est Love Jazz, Jennifer.
Love Jazz,
c'est
okay.
ça. C'est Love Jazz. Non, mais c'est pas grave. C'est Love Jazz.
Ouais. Et sachez que on en avait déjà parlé. C'est le mois de la photo de Montréal. Mm-hmm. Et pour faites-vous plaisir à vos yeux, c'est ce que nous dit le journal de Montréal jusqu'au 11 octobre prochain, parce qu'il y aura des expositions et d'autres activités au rendez-vous possibles.
Dont nous a parlé d'ailleurs Christine Boucard hier. En détail, alors c'est bien que vous fassiez un petit
et
rappel.
Vous en avez une.
Allez-y.
Oui, une petite dernière, parce que c'est les mercredis gratuits au musée McCord.
Ah oui.
Dès 17h, rendez-vous au musée McCord pour visiter gratuitement les expositions. Et il faut savoir que pour les enfants de moins de 12 ans, là, c'est tout le temps gratuit. Donc,
est-ce qu'on sait ce qui est présent en ce moment au musée McCord?
Non,
ah bon,
c'est
on va
pas,
faire une petite recherche.
Précisé.
Est-ce qu'on pourrait aller préciser?
Je donne beaucoup de travail à Rémi.
Oui, absolument. Alors, pendant que Rémi va s'intéresser au musée McCord, tu sais déjà ce qu'on présente en ce moment?
Je suis en ce moment sur le site internet
du
musée McCord.
Alors, dis-nous tout.
Donc, on a en ce moment, du 25 septembre au 10 avril 2016, Montréal dans l'œil de Vittorino.
Montréal dans l'œil de Vittorino,
c'est un photographe
sûrement, c'est ça?
50 ans de vie urbaine et de création graphique.
Okay.
Donc c'est un artiste montréalais d'origine italienne, à la réputation internationale. Vittorino Fiorucci a marqué le paysage montréalais de plusieurs générations et son œuvre est le témoignage de près d'un demi-siècle de vie à Montréal. Son style se distingue par des formes simples, des couleurs vives, des personnages étonnants et beaucoup d'humour.
Bon.
Donc on trouvera des affiches, des photographies, des illustrations, de la bande dessinée.
Est-ce qu'on sait s'il y a une bande sonore, une bande son pour les non-voyants qui, parce que c'est comme un audio guide, est-ce que c'est écrit?
On a des médiateurs culturels qui sont présents dans la salle, on a une introduction à l'exposition, donc c'est sûrement le petit kit.
Ok, super.
Avec le casque, etc., qui nous présente les œuvres. Après, est-ce qu'il y a quelque chose de spécialisé pour les non-voyants? J'ai pas l'impression.
D'accord. Bon, merci
mais
beaucoup.
Mais
si au moins il y a du monde sur place, ça veut dire qu'on pourra éventuellement vous faire signe et
on rappelle
vous dire.
Que le mercredi, c'est gratuit, donc il faut en profiter.
Ben oui, c'est sûr, exactement. Merci beaucoup, Rémi. Merci.
Merci à vous.
Charles, une petite brève.
Ben oui, une belle activité à faire à Beauport. On vous propose une rencontre avec l'histoire. Écoutez, c'est jusqu'au 4 octobre, jusqu'à dimanche. Ça a été en exposition toute tout le long là, de l'été du 15 juin, à partir du 15 juin. C'est contribution volontaire. C'est quoi? C'est à l'église La Nativité Notre-Dame qui vous invite. Elle ouvre ses portes, enfin. C'est Sarah et Geneviève qui vous feront découvrir l'histoire et les richesses de l'église en profitant d'une visite guidée à la demi de chaque heure. Oui, c'est okay. ça. Elles seront heureuses de vous y accueillir. L'invitation spéciale à se rendre à la sacristie pour admirer l'exposition permanente d'objets religieux et patrimoniaux, trésors de la paroisse. L'activité a lieu beau temps, mauvais temps. Si vous voulez réserver, je vous donne le numéro de téléphone. C'est le 418-666-3349.
En direct du bon Dieu.
Pour
le bon
Dieu.
Et je rappelle que ça, c'est à Beauport, et donc c'est près de Québec.
C'est à l'église la Nativité de Notre-Dame sur la rue, l'avenue du Couvent.
On se retrouve dans quelques secondes. Vous restez avec moi, Jennifer, Charles.
Bien sûr.
D'accord. Et on parle sortie culturelle avec Jennifer et Charles, et ça continue. Alors Jennifer, qu'est-ce que vous nous proposez maintenant?
Je le disais en introduction, en début d'émission, sachez que Kurt Cobain va ressortir un album. Alors plus exactement, ça va s'appeler Montage of Heck, The Home Recordings. Et c'est une... avec mon bel accent.
Oui, j'adore ça!
C'est The Home Recordings. Oui, c'est une copie, c'est une compilation d'archives inédites qui a été retrouvée lors de la réalisation du documentaire consacré au leader de Nirvana, donc Kurt Cobain. L'album va contenir 13 titres de chansons qui ont été retrouvés par le réalisateur Brett Morgan dans des caisses mises à sa disposition par Courtney Love, donc c'est l'ex-compagne chanteur. Et parmi les quelques 200 heures d'enregistrement réparties sur 107 cassettes audio, eh bien, il y a des chansons, mais également des paroles lues, des démos et puis même des sketchs humoristiques. Mmh. Et afin d'offrir aux fans du chanteur américain de la musique, mais également des souvenirs de leur idole, il va y avoir une version luxe de cet album qui sortira également, donc ce sera le 13 novembre prochain, et elle va contenir 31 pistes. Donc certaines sont inédites, puisqu'elles ne figurent même pas dans le film documentaire qui a été présenté. Et début décembre, il y aura un vinyle contenant en plus des chansons du chanteur, la reprise de Cobain de la chanson « And I Love Her ». C'est une chanson à la base des Beatles.
« And I Love Her ».
Voilà, que Kurt Cobain avait reprise. Et alors, c'est vrai que là, c'est un peu la mode des vinyles en ce moment. Moment et depuis un petit moment maintenant.
Ouais, je lisais hier dans le journal, je ne sais plus lequel, que le pourcentage de vente de vinyle avait augmenté aux États-Unis plus que le pourcentage de téléchargement, vous savez, sur les
sur Internet.
Oui. En tout cas, c'est sur toutes les bandes streaming là. C'est fou.
Il y a une grosse culture du vinyle qui revient, et donc du coup c'est pour ça que notamment cette chanson là sera mise sur vinyle également. Donc pour les fans de Kurt Cobain, pour les fans de musique, pour les fans de vinyle, ils pourront se régaler avec ça.
Et pour les fans des Beatles aussi.
Les fans des Beatles aussi. Et puis, puisqu'on parle musique, c'est toujours bien d'avoir un petit extrait qui accompagne ça.
D'accord.
Donc, je pense qu'on va pouvoir écouter un petit peu de Kurt Cobain pour le plaisir quand même.
Allons-y.
Top has sprung a leak, and the animals I trap all become my pets, and I'm living off of grass, and the drippings from the seed, and it's okay to eat fish, 'cause they don't have any feeling. Something in
Tant que ça reste calme comme ça, moi j'aime ça. Mais c'est quand ça s'énerve que j'aime moins.
On a pris une version un peu plus soft.
Merci beaucoup. Mais j'aurais bien aimé entendre And I Love Her chantée par.
Oui, alors on peut entendre cette reprise pour le moment sur Internet et puis elle sera dans l'album et sur le vinyle qui sortiront donc le mois prochain. Et juste pour rappel, donc Kurt Cobain, il est mort en 1994 à l'âge de 27 ans. Il fait partie du club des 27 là.
Mais c'est fou, ces artistes qui se sont soit suicidés, soit meurent d'overdose
oh là là. À cet âge-là.
Alors, on avait envie ici de continuer en musique. Alors, je vais donc laisser la parole à Charles. Mais avant que vous preniez le crachoir, comme je dis toujours vulgairement, je voudrais qu'on écoute un petit bout d'une chanson.
Vous allez être d'accord, dans la période après Carquois, Louis-Jean Cormier, qu'on entend, a su admirablement donner un second souffle à sa carrière. C'est incroyable. On entend un extrait de son deuxième album qui s'appelle Les Grandes Artères. Et Louis-Jean Cormier entame sa tournée de cet album-là et il va s'arrêter à Sherbrooke le 3 octobre au théâtre Granata. C'est d'ailleurs le titre de l'article que je vais vous lire qui est paru dans la Bible urbaine. C'est un texte de Benjamin Le Boniek. On est loin des guitares orageuses du groupe qui fut l'un des plus importants représentants de la scène rock québécoise des années 2000, Carquois. Mais pourtant, la voix de Louis-Jean Cormier, si limpide et si peu, résonne toujours dans nos têtes.
Ouais, c'est vrai.
Avec les balbutiements d'une carrière solo, le chanteur se révèle dans une toute autre dimension. On dit qu'il s'affiche désormais comme un auteur prolifique avec un deuxième album en carrière et se dévoile surtout par sa grande sensibilité. Il est touchant, ce Louis-Jean. Il est véritablement devenu, depuis le début, avec la trêve de Carquois. Et grâce à son talent, son charisme et même son audace, il brasse aujourd'hui un public encore plus large, dit-on. Ce deuxième album est peut-être plus obscur que le précédent, plus dramatique, avec ses histoires de rupture amoureuse, portant grâce à un folk assez orchestral. Cormier donne de la profondeur à ses chansons et il en découle de cela un style bien plus étoffé que dans le passé. Avec ce passage en Estrie, donc le 3 octobre prochain, le chanteur sort...
Demain?
Oui, c'est demain, vous avez raison. Le chanteur sort de sa pause estivale et le public cherbourquois est l'un des premiers à pouvoir apprécier la prestation de ce concert. Il sera précédé de son ami Antoine Corriveau en première partie, qui est, dit-on, tout aussi talentueux.
Plus rock'n'roll, un peu plus rock.
Je connais pas.
Moi, je connais bien Corriveau, il est un peu plus... ça rentre dedans.
Il va saisir le public, puis après ça, il va l'attendrir avec une puissance.
Exactement, exactement.
Alors, pour apprécier ses talents culinaires et musicaux, c'est demain. C'est ce que je disais. Il va, avec la première partie, on va saisir le public, puis après ça, on va faire une cuisson d'ordre. J'essayais de trouver une meilleure formule, mais c'est ce qui est sorti. C'est le 3 octobre au théâtre Granata de Sherbrooke. On va en écouter.
Oui, on s'en remet encore un petit peu parce qu'on aime ça de Louis-Jean Cormier. Merci.
Un robot qui nous aidera à remonter. t'expose ma tête, mes yeux, mon cœur et mes mains si tu reviens.
La tête.
Louis-Jean Cormier, ah, je vous envie à Sherbrooke demain de pouvoir l'accueillir. Je vous avouerai que non, je n'irai pas à Sherbrooke demain, surtout que c'est dans les journaux aussi du jour. Vous savez que le pont Champlain va être complètement fermé vers la rive sud pendant toute la fin de semaine. Autrement dit, si vous voulez aller sur la rive sud, va falloir prendre ou le tunnel La Fontaine ou Jacques Cartier. Et lui-même, le pont Jacques Cartier, je pense qu'il doit y avoir qu'une seule voie encore.
Oh, bon,
bref, il vaut mieux aller dans le nord, je pense, que... si vous me le permettez. Jennifer, vous avez une petite nouvelle pour nous?
Oui, eh bien, il va y avoir une toute nouvelle exposition qui sera présentée au Musée des Plaines d'Abraham.
Oui.
En effet, le Musée des Plaines d'Abraham va proposer une exposition. Ça va être la bataille 1759-1760 qui remplace l'exposition Odyssée. Qui était mise en place déjà depuis 15 ans et
ah
qui
ouais
a attiré plus de 300 000 visiteurs. Donc là, on change d'exposition. Et c'est la bataille 1759-1760. Donc là, il y aura une projection multimédia de 23 minutes qui va présenter au travers de 4 personnages, donc un Français, un Britannique, un Canadien et un Amérindien, les récits de 17 témoins de cette époque. Donc cette projection, elle est bâtie à partir de 300 dessins. Elle va être accompagnée d'effets de vibrations qui se déploient à partir de l'écran et même sous les sièges des spectateurs.
Ah, oui.
Donc il va vraiment y avoir des effets qui vont se faire sentir lors explosions, des coups de canon. Voilà, je pense qu'on
c'est
va
la grande bataille
ressentir...
des plaines finalement. C'est la grande bataille des plaines d'Abraham. Wow.
Exactement. Donc il y aura 8 projecteurs utilisés pour créer un effet d'immersion chez le spectateur.
Oui.
Et les visiteurs qui venaient voir Odyssée, en fait, voulaient en apprendre plus sur la bataille des plaines. Et c'est ce qui a amené Stéphane Roy, le directeur adjoint, à élaborer donc une nouvelle exposition qui aura 2 nouvelles phases d'ici 5 ans. Donc, il projette quand même de faire progresser cette exposition-là.
Ah, si ça dure 15 ans comme l'autre.
Je précise juste qu'elle est présentée tous les jours de 9h30 à 17h dans des versions françaises et anglaises et qu'on peut bien sûr obtenir plus d'informations, notamment sur les tarifs, en consultant le site lesplainesdabraham.ca.
Pour les amateurs de sensations fortes, c'est là que ça se passe. Merci, Jennifer. Moi, j'ai une petite brève en archéologie que j'ai trouvée ce matin. Ben oui, pourquoi pas, c'est dans le journal de Montréal. Figurez-vous, mes amis, que l'Égypte s'attend à faire bientôt la découverte du 21e siècle. Et oui, ça va se passer dans le tombeau du pharaon Toutankhamon, où on espère y découvrir une chambre secrète, figurez-vous, où se reposerait la momie de la légendaire reine Néfertiti.
Ah oui?
Oui, 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 ainsi que d'une autre épouse d'Akhnénaton ou de sa fille. Alors, le tombeau de Toutankhamon, au siècle dernier, fut la plus grande découverte culturelle en Égypte, dans l'histoire de l'humanité. Ça, on s'en souvient, pas forcément personnellement, mais ça s'est su, bien évidemment. Si on y trouve aujourd'hui autre chose, ce sera la plus importante découverte du 21e siècle. C'est enthousiasmé hier, le ministre égyptien des Antiquités. Et dans un mois, c'est du moins ce qu'il espère, des radars vont sans doute révéler l'existence d'une autre chambre funéraire. Parce que vous savez qu'il y a un an ou deux, je ne me souviens plus exactement de la date, mais je me souviens qu'ils ont installé un système de radars justement pour pouvoir pénétrer dans ce
sols.
Qui pour l'instant était impénétrable. C'est comme ça qu'ils ont découvert une première chambre. Et là, peut-être... ces anciens tombeaux, notamment de la reine Néfertiti, on a hâte de voir comment tout cela s'est conservé.
Mais oui.
Jennifer.
Oui, dans le journal du métro de ce lundi, on nous dit que le film Félix et Mera fait un pas vers les Oscars.
Mm-hmm. Ah, wow.
Le film du réalisateur québécois Maxime Giroux sera soumis pour représenter le Canada dans la course à l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Je ne pourrais pas être plus heureux que ça, a lancé tout sourire celui à qui on doit aussi Joe pour Jonathan, après avoir appris qu'il avait été sélectionné. Je suis particulièrement heureux pour les comédiens qui sont sortis de leur communauté avec courage. Mmh. Ce n'était pas une décision évidente et une nouvelle comme celle-là, ça pourra leur faire se dire qu'ils ont bien fait de croire en eux-mêmes. Félix et Mera, ça raconte une histoire d'amour, oui, entre un Québécois de souche qui est joué par Martin Dubreuil et une mère de famille juive hassidique, jouée par Ada Ciaron. Et ça succède donc à Mommy de Xavier Dolan, dont on a beaucoup entendu parler l'année dernière, qui lui avait été choisi, mais n'avait toutefois pas été mis en nomination. La 88e cérémonie des Oscars se tiendra le 28 février 2016, et les nominations seront annoncées en début d'année, le 14 janvier.
Bonne chance! Retourne à nouveau vers Charles.
Oui, une petite nouvelle. Déjà, passé à une parution bimensuelle depuis plus de 2 ans, le journal culturel Voir se transformera probablement en magazine mensuel.
Oui, j'ai lu ça cette semaine.
Oui,
c'est un choc, mais peut-être qu'il sera plus épais, je ne sais pas.
Ben, en tout cas, cette nouvelle version-là, ça a l'air que ça va apporter d'autres choses. Monsieur Alexandre Taillefer, qui est, oui, un des co-actionnaires des communications Voir...
Le dragon,
dit, le fameux dragon, dit que ça s'enligne pour ça, mais que la décision n'est pas finale en ce moment. Un magazine leur permettrait, dit-on, de produire du contenu de plus longue haleine, tout en continuant à alimenter quotidiennement la plateforme voir.ca. Donc, c'est peut-être une bonne nouvelle, un nouvel élan différent pour Voir, parce qu'il n'est pas prêt de mourir, ce journal. Hein?
Ben, on l'espère,
ben
en
non,
tout cas, parce
qu'on se
souvient, quand il est sorti, ça avait créé toute une révolution. Et là, j'essaie de faire des grands gestes à mon camarade de l'autre côté, mais je ne sais pas. Oui. Merci beaucoup. Moi, j'ai envie de vous faire part d'une chronique ce matin qui est signée Sophie Durocher dans le Journal de Montréal. Et ça s'appelle « Françoise, Gabrielle et les méchants rappeurs ». Elle dit lundi matin, donc c'était lundi dernier, elle écoutait la radio de Radio-Canada et elle dit « Oh, oh, j'ai pensé m'étouffer dans mon café ». Elle a entendu le chroniqueur, qui est Gabriel Nadeau-Dubois, qui venait de dire qu'il était en désaccord avec Françoise David de Québec solidaire. Comment Gabriel Nadeau-Dubois en désaccord avec Françoise David? Et là, elle nous pose la question, Mme Durocher, mais qu'a donc dit Françoise David pour être ainsi critiquée par GND, qui est en général plutôt un ami idéologique de Québec solidaire? Eh bien, dans une entrevue au Huffington Post, Mme David a carrément affirmé que la loi sur le discours haineux devrait s'appliquer aux rappeurs misogynes.
Ah!
Vous avez bien lu le fameux projet de loi 59 que tout le monde a décrié. Madame David, elle, l'appliquerait aux chansons de méchants rappeurs anti-féministes et misères. Elle écrit de plus en plus comme son époux, hein, Madame Durocher. Avez-vous remarqué? De plus en plus, elle utilise quelques expressions de son époux, Monsieur Martineau. Alors, dans cette entrevue au Huffington Post, Madame David reconnaît, et elle revenait sur la controverse de l'été. Vous savez, ce rappeur qui s'appelle Action Bronson, avez-vous entendu parler de ça? Non. Connu pour ses vidéos et ses chansons trash qui devaient venir à Oceaga.
Ah oui,
et
oui,
puis finalement,
oui,
voilà, il a été interdit, puis finalement, mm-hmm, il est venu, enfin bon. Et GND, qui chroniquait sur la liberté d'expression quelques jours plus tard à Radio-Can, a déclaré: et là, je le cite, « on est toujours mieux avec un État avec trop de liberté d'expression oui. que pas assez. Je suis donc en désaccord avec Françoise David. Si l'État se met à légiférer sur les paroles de chansons, il y a dérapage. » Et Madame Durocher qui abonde, qui dit « ben oui, il y a bien dérapage, une fois n'est pas coutume. » Je suis d'accord, dit-elle, avec Gabrielle Nadeau-Dubois. Non seulement je ne veux pas que l'État se mette à légiférer sur les paroles de chansons, écrit-elle, mais je ne veux pas que ce soit les gens de Québec solidaire qui décident des chansons que je peux écouter ou pas. Bon, aurait-il fallu une loi pour sanctionner les propos d'Action Bronson ou du blogueur Rouge Vie ? Ce n'est pas le rôle de l'État, dit Madame Durocher, de répondre à ces propos-là. C'est notre rôle comme citoyen, comme citoyenne, de se mobiliser. A répondu GND à Alain Gravel, qui le questionnait à ce sujet. En effet, cet été, ceux qui s'opposaient à la venue de ces deux individus ont utilisé, écrit-elle toujours, toutes sortes de moyens. Il y a eu des pétitions, on s'en souvient, il y a eu des blogs, il y a eu des manifs, il y a eu des lettres aux journaux, etc. etc. C'est la façon démocratique de fonctionner, écrit-elle. Tu n'es pas d'accord avec un tata qui banalise le viol ?
Défends-toi.
Tu vas manifester devant son spectacle ou tu face-tweet ton indignation, mais... conclut-elle, tu ne demandes pas au gouvernement de lui mettre une muselière. Jennifer.
Oui, sachez que le journal Métro propose un concours photo. Alors, il propose en fait de sortir vos caméras pour partager l'angle sous lequel vous voyez votre ville. Il soumet trois catégories, les secrets de ma ville, l'âme de ma ville et les coups de cœur de ma ville. Donc ça demande un petit côté un petit peu artistique.
Ah ouais.
Et il offrira pour les trois gagnants mondiaux, donc c'est quand même... C'est un peu diffusé partout. Une expédition photo en Inde pour une valeur de 6 000 $. Et les 6 gagnants locaux, eux, recevront des certificats cadeaux de photos ainsi que des cadeaux du collège inter-DEC pour une valeur de 700 $. Donc, vous avez le règlement sur metrophotochallenge.com. Voilà, si ça vous intéresse, faites-le.
Et ça m'amène à vous rappeler, hier, on a parlé à la même émission, les voies de service, d'un photographe syrien. Qui est un réfugié, un des réfugiés en ce moment, qui était sur les routes, et il est aveugle. En fait, il ne voit qu'à 10 cm en face de lui et, pour le moment, mais apparemment, c'est dégénératif et ça va changer. Et on nous présente, il va présenter des photos, une exposition. On a parlé un petit peu de ces photos-là hier. Il y a notamment beaucoup de photos d'enfants. Il s'intéresse beaucoup. Et c'est un type qui est presque aveugle et qui a choisi la photographie pour s'exprimer. C'est très, très, très touchant. Alors, pourquoi pas vous ? Une petite brève, tiens, Justin Bieber qui réclame un peu d'intimité.
Ah oui?
Ben oui, mais Tipro, si tu veux, je te dis, ça va.
Oui, c'est ça, il est exposé partout.
Ah oui, non, mais là, en fait, il n'en peut plus parce qu'il est assailli par des fans. En fait, il a été assailli par des fans, comme ça arrive toujours, lors de récentes sorties, dont une qu'il a faite à New York. C'était juste avant une apparition à la télévision. Il n'est vraiment pas disposé à renoncer à son passe-temps parce qu'il attire trop l'attention. Son passe-temps, je pense que c'est simplement de magasiner puis de traîner dans les rues. Il dit « J'aimerais simplement que les gens comprennent », et ça c'est une citation de M. Bieber, « que peut-être que si je continue, ils finiront par me respecter et juste me regarder et apprécier ma compagnie au lieu de rendre les choses difficiles. Il y a ce moyen heureux d'être à même de me respecter. S'il s'agit d'un moment passé ensemble, allons-y », a-t-il précisé. Alors, alors on continue avec des petites brèves.
Oui,
Charles.
Dans le coin de Québec, une activité familiale gratuite, ça s'appelle L'Art en soi, c'est jusqu'à dimanche, alors dépêchez-vous. C'est une exposition qui propose une expérience originale qui changera votre regard sur l'art. Bon, de belles promesses, mais qu'est-ce que c'est? C'est une exposition à nul autre pareil. Vous voyez l'art et la science s'entrecroiser pour vous faire découvrir le rôle déterminant que joue, souvent à votre insu, de vos perceptions dans la contemplation d'une œuvre d'art.
OK.
Audio guide ou cahier de description en main, vous aurez à répondre aux questions qui vous seront posées en lien avec des œuvres présentées. Vous recevrez ensuite des explications sur les différents phénomènes perceptifs qui vous animent lorsque vous êtes exposé à l'art.
Ah ouais.
C'est au moyen de pièces magnifiques signées entre autres par Alfred Pellin, Paul-Émile Bordua, Antoine Plamondon, Napoléon Bourassa, que vous vivrez ce concept rarement, sinon jamais, exploité dans le monde des arts. Danny Kine, historien de l'art, et Simon Grondin, professeur de psychologie à l'Université de Laval et spécialiste de la perception, sont les commissaires de l'exposition. Ça vous donne le ton. Donc,
rappelez-nous
qu'est-ce qui se passe?
C'est
à Sainte-Foy-Sillé-Cap-Rouge, c'est à la Villa Bagatelle sur le chemin Saint-Louis. C'est gratuit. L'art en soi.
Jennifer.
This Change Everything, encore un documentaire sur les changements climatiques.
Ah bah
mais
oui.
Celui-ci est différent car le film Davy Lewis, qui est inspiré, enfin c'est beaucoup inspiré du livre de son épouse Naomi Klein, lui ne va pas parler des ours polaires. Non, il va parler des gens qui subiront les conséquences des atteintes à l'environnement et qui agissent. On y rencontre bien plus de résistants que de scientifiques en train d'affirmer que les changements climatiques, bah, c'est pas bien. Et là, c'est la clé. Du coup, je rappelle le titre de ce documentaire, The Change Everything, et ce sera en salle dès le 9 octobre prochain.
On aurait le temps encore pour une petite dernière? Non, mais remarquez, si vous n'en avez plus, moi j'en avais encore certainement, mais il faudrait que j'étais sûre que vous auriez autre chose
ah
à
oui,
nous,
moi,
à
nous proposer.
Ah, je le savais, je le savais,
petite.
Je le
oui,
savais.
Oui, il y a toujours. Hein. Cette année, Monsieur Aneb organise la soirée cabaret au profit de l'organisme Anorexie et Boulimie Québec.
Ouais, oui.
Plusieurs personnalités connues défileront sur le tapis rouge, dont Bianca Gervais, Varda Etienne et Sarah-Jeanne Labrosse.
Labrosse.
Et au programme des numéros d'artistes ainsi qu'une performance de DJ Abeille. Ça débute ce soir. C'est à 19h au Théâtre Plaza.
Merci beaucoup et merci beaucoup à vous deux d'être venus passer encore une fois cette heure avec moi et de nous avoir donné toutes sortes d'idées de sorties en cette fin de semaine, mais qui s'annonce belle finalement dans la plupart des régions, mais frisquette un peu. Et puis n'oubliez pas que les couleurs ont du retard, alors c'est en ce moment que ça commence, l'apothéose, là, et pour les deux prochaines semaines, si vous avez bien sûr la capacité de les voir et si vous avez la patience de traverser le pont si vous habitez Montréal, sinon. Merci donc, Jennifer Vignery, merci Charles Roy. Je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine.
Avec
bonne
plaisir.
Journée.
Bye.